tranches de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranches de Vie, la commune de Coulounier-Chamier, vous le savez, recèle des trésors. Vous connaissez sans doute cette activité importante qu'ont été les ateliers de réparation de la SNCF. Mais la commune a abrité une autre activité qui a eu une heure de gloire et qui s'appelait Starlux, la fabrique de figurines que tout le monde connaît. Maryse et Gérard Beffara, qui sont les héritiers de la famille qui fabriquait, qui a été à l'origine de cette aventure industrielle extraordinaire, ont accepté de parler de leur vie au sein de cette entreprise et de la manière dont ils ont vécu cette grande aventure. Je les en remercie beaucoup. Maryse, bonjour. Gérard, bonjour.
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 Maryse, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous êtes rentré dans l'entreprise familiale d'une manière active?
Oui, je suis rentrée dans l'entreprise en 1970. J'avais passé mon bac et puis bon, après j'ai continué de travailler par correspondance pendant un an pour aller un petit peu au-dessus. Mais je travaillais dans l'entreprise en tant que secrétaire auprès de mon père et de ses divers adjoints. Voilà, je faisais tout ce qui était commercial, je m'occupais de tout cela.
Donc vous êtes rentré dans l'entreprise à un moment où elle était déjà, parce qu'on va revenir un peu sur l'historique de l'entreprise, à un moment où elle était déjà à Coulounier-Chamier?
Ah oui, elle était implantée à Coulounier-Chamier, à cet endroit-là, oui. Ça n'a pas changé. Alors, ça n'avait pas changé. Moi, je suis restée fidèle à cette... à cette implantation, je ne suis pas allée au-delà, je n'ai jamais été...
Et vous avez été une employée donc, de l'entreprise Starlux de la famille jusqu'à la fin de l'entreprise?
Jusqu'à la fin de l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'en fin 96, et après j'ai continué une période de mars 97 à juin 97. Et après j'ai stoppé, parce que l'entreprise était reprise par... par une personne qui ne me convenait pas vraiment, donc j'ai stoppé.
Alors, ça, ce sont les aspects historiques sur lesquels on va revenir et sur lesquels on va interroger un petit peu Gérard. Alors Gérard, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, puisque cette historique de l'entreprise, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs un petit peu quelles ont été les grandes étapes de l'histoire de Starlux?
Starlux, à l'origine, ça a débuté à Paris dans les années 36. Par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelait Élie Tarrou, qui avait créé des sujets en blanc de Meudon. Blanc de Meudon, c'est un peu comme du plâtre. Et son beau-fils, Pierre Beffara, a voulu continuer l'entreprise.
Voilà. Donc, là, c'était un petit atelier familial.
Absolument, absolument. Et pourquoi l'entreprise a atterri à Périgueux et après à Coulounier? Nos parents sont allés, à l'époque, je n'étais pas né, sont allés rejoindre Pierre Beffara, qui était le cousin germain de mon père, à Paris, et... maman est tombée enceinte de moi. Et elle n'a pas voulu continuer. Elle ne voulait pas rester à Paris. Et elle a dit, moi, je n'accoucherai pas à Paris. Et l'entreprise est venue à Périgueux. À l'origine, c'est rue du Dépôt.
Parce que vos parents ou votre mère étaient originaires du Périgord ?
Oui, oui. Notre père aussi. Et donc, ma mère est venue accoucher à Périgueux et l'usine s'est montée en 1953, je crois, 54, à Coulounier, Chamiers, à Chamiers, à l'endroit où maintenant c'est Emmaüs. Voilà. Et de là, des bâtiments se sont montés petit à petit. On a commencé avec quelques employés. Mon parrain, puisque j'étais le cousin de Michel Beffara, notre père, c'était à l'origine le patron, mais il avait confié l'entreprise à notre père. C'est-à-dire qu'il faisait absolument confiance à notre père. Et de là, c'est notre père qui s'est occupé de l'entreprise et qui a monté ce qui est jusqu'en 77. En 77, avec beaucoup de décoratrices et à l'extérieur, on était arrivé à pratiquement 280 personnes.
Voilà. 280 personnes employées sur Coulounier ou
Alex, il y avait à peu près, je crois qu'on est monté à 75 personnes à l'usine et le reste c'était à domicile. Donc il y avait un ramassage de sujets qui se faisait à domicile sur des sites bien précis. Il y avait Chalet, Ribérac. On est passé directement au plastique dans les années 50.
Oui, c'était la grande époque de la découverte, enfin de la généralisation d'utilisation des plastiques.
Et à l'origine, les sujets, au début, étaient fabriqués à Paris et ils étaient livrés bruts à Périgueux, qui était brut.
Réparti ensuite alors pour dans les ateliers familiaux où on peignait ces sujets.
Ouais. Alors il y en a une partie qui venait livrer, il y avait des jours de livraison, qui venait livrer à l'usine, celle qui ne faisait pas partie de Ribérac ou La Rochalet, ou Chalet, même La Rochalet je crois aussi. Elle venait livrer, il y avait des jours de livraison, mardi et le vendredi il me semble, à l'usine. Et à partir de 57, notre père a embauché Francis Guédier, qui est devenu le directeur de l'entreprise et qui est tout le temps resté dans l'entreprise et qui était vraiment le bras droit de notre père.
Les sujets, comment Madame Beffara, comment avez-vous vu un petit peu l'entreprise prendre de l'ampleur depuis votre travail de secrétariat, parce que vous avez dû assister un petit peu à l'expansion et puis à la diversification de la clientèle.
Oui, mais là c'était les années florissantes, les années 70 jusqu'aux années jusqu'en 80, enfin. Il n'arrivait même pas à fabriquer,
à satisfaire la demande,
oui.
Mais alors, comment, qu'est-ce qui décidait des séries
Déjà sur place, il y avait un sculpteur, Texidor, au départ, Monsieur Texidor, c'était un Espagnol qui était venu.
Un seul sculpteur.
À l'époque, oui, dans les années 50, enfin moi je n'ai pas trop connu là, dans les années 50, c'était Monsieur Texidor qui était là, qui était sur place. Et qui faisait les modèles, il avait des documents,
documents historiques. Quels étaient les documents quand même d'origine, vu qu'il y avait beaucoup d'utilisation de la bande dessinée ou des choses comme ça.
Il y a eu beaucoup de photos, oui. Beaucoup de choses comme ça. Et après, plus tard, est arrivé Monsieur Massa. Je pense qu'ils ont travaillé tous les deux. Moi, je n'ai pas connu cette époque non plus. Mais ils ont dû travailler tous les deux, puis après M. Texidor a pris sa retraite et c'est M. Massa qui a continué.
Alors il faisait des moules, mais en quel matériau alors ?
En darreau. Ça s'appelait des darreaux.
Darreau.
Qu'est-ce que c'est que le darreau ? Là, on apprend plein de choses.
C'est aussi dur que de la pierre.
Voilà.
Et c'est à l'origine, le sculpteur faisait un sujet en pâte à modeler. de la pâte à modeler avec le, toujours pareil, le mâle et la femelle, ils reproduisaient en plâtre, et du plâtre, ils le mettaient, ils le faisaient en darreau pour durcir, pour que le pantographe puisse le réduire à l'échelle demandée. Et j'en profite pour dire que il y a quelques jours, nous avons, dit adieu à Michel Chicot, qui était le graveur de l'entreprise et qui a été du début à la fin. Et c'était le seul graveur, c'était le seul qui touchait le pantographe. Son rôle, c'était de reproduire à partir du darreau qu'il avait sur son pantographe, de reproduire à l'échelle qu'il voulait demander. Ça demandait beaucoup de temps. À l'époque, quand nous regardions ça, on pouvait dire, putain, mais il n'avance pas. Mais quand du darreau, vous passez au bronze, le bronze, vous ne le travaillez pas comme, comme du calcaire. Non, le moule.
Le moule. Le moule. Oui, le moule gravé en creux.
Le moule était en bronze, et de ce moule-là, il était après encagé au niveau de la presse pour reproduire dans les machines injectées.
Le plastique était injecté dans ce moule en creux.
Et le plastique arrivait comme des granulés. Ah oui.
Est-ce que vous avez assisté à une diversification de la clientèle? Est-ce qu'il y a eu un moment, une internationalisation de la clientèle? Ou est-ce que c'est resté surtout hexagonal?
Ça a commencé à s'amplifier, à devenir plus sur l'international, aux alentours des années 70, je dirais. Ça a commencé à prendre un essor considérable sur l'extérieur. On a commencé à travailler avec la Suisse, avec l'Italie, on avait des agents.
Oui. Alors, est-ce que vous receviez des commandes de l'étranger en vous disant, voilà, nous on veut une série de soldats suisses ou une série de...
Bien, on a justement, pour nos agents italiens et suisses, alors on a fait des soldats suisses pour le Suisse, on a fait des bersagliers pour l'Italie. Bon, en Belgique, il n'y a pas eu de création particulière. Ils prenaient la collection, en règle générale. Mais voilà, on a fait ces créations-là pour ces pays.
Après, il y a eu quand même, au fil des années, une diversification extraordinaire de la production. Et alors, est-ce que ça a toujours été les mêmes échelles pour toutes les séries, ou bien est-ce que... vous avez varié les échelles en fonction de
la demande.
En fonction de la demande et puis en fonction des thèmes, puisque votre inspiration, si je puis dire, elle a couvert pratiquement depuis Moyen-Âge. Je ne sais pas s'il y a eu des sujets antiques.
Oui.
Tu sais, il y en a eu, alors depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine.
Depuis la préhistoire.
Depuis la préhistoire.
Et la préhistoire, c'est venu, moi je me rappelle... C'est venu justement du journaliste Raymond Maric, qui un jour avait dit à notre père, tu devrais faire des animaux préhistoriques.
Mm-hmm. Ah oui, j'ai vu que vous avez été la première entreprise à produire des dinosaures qui ont connu la vogue qu'on sait après.
Et ça a connu un succès incroyable. Incroyable. Oui. Ouais. Et ce qui a connu un grand succès également... C'est l'Empire. L'Empire, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était les périodes... Il y a eu la période avec le sculpteur Monsieur Texidor. Il avait commencé à faire des sujets d'Empire. D'abord, on voit la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle les sujets Texidor et les sujets Massa. Vous voyez, c'était deux écoles différentes. Et l'Empire, ça a connu un succès. Il faut reconnaître que nous avions des décoratrices qui étaient la plupart du temps formées par Yvette Doriac, qui a été la plus ancienne décoratrice de l'entreprise, qui d'ailleurs, je lui avais fait un petit coucou pour qu'elle vienne, mais comme son mari était fatigué, elle n'a pas pu venir.
Elle est toujours en vie, elle habite toujours la commune
ou... Oui, elle habite Bassillac. Elle habite Bassillac. Et c'était la meilleure décoratrice de l'entreprise, qui avait vraiment un coup de pinceau extraordinaire. Et c'est elle qui formait souvent les décoratrices, parce qu'il y en a quelques-unes. Vous savez, ça fait comme pour tout, il faut essayer beaucoup pour en garder peu. Le sujet d'Empire était fait par... Ils en prenaient une centaine. À quelque chose de près, à la semaine, je me rappelle, hein, c'était une centaine, le même sujet.
Est-ce que vous avez des statistiques ? Des chiffres ou en tête ou qui ont été publiés ou conservés dans les archives sur le nombre de modèles qui ont été produits sur parce que quand on regarde Internet aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de gens qui ont l'air d'être des collectionneurs de Starlux, qu'il y a tout un réseau d'échanges qui fonctionne et qu'il y a une diversité, enfin quand même sur plus d'un demi-siècle, il y a une diversité extraordinaire de production.
Normalement, je pense qu'il y avait plus de 4000 sujets différents. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des jours, dans les années 70, il sortait plus de 40 000 sujets par jour en fabrication.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez une idée de... Est-ce qu'il y a des manifestations de collectionneurs? Vous avez des relations avec des collectionneurs encore ou des gens qui s'adressent à vous pour avoir des informations sur telle ou telle production
Actuellement, il s'est monté une association depuis quelques années, qui est l'association Génération Befara, Starlux Befara. Ouais. Et il doit y avoir une trentaine de personnes qui sont rentrées dans l'association.
Est-ce que cette association elle a des relations avec des associations ou des clubs à l'étranger qui recherchent telle ou telle figure?
Je ne pense pas. Je sais que beaucoup de gens fonctionnent par Internet avec eBay. À ce niveau.
Oui, il y a des bourses d'échange, peut-être.
Oui, des bourses d'échange.
Voilà,
oui,
mais autrement, non, on ne connaît pas d'autres moyens de...
Là, c'est un domaine où lequel vous n'avez pas cherché à poursuivre la tradition comment se comporter l'héritage, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des figurines Starlux qui s'échangent dans les bourses là dont vous parlez, dans le monde entier. Hein.
Oui, puisqu'on en voit quand on fait les brocantes ou les vies de grenier, on en voit déjà pas mal qui s'échangent. Mais ce sont des vieilles figurines, hein, c'est pas des figurines, les derniers cris là, des années 80.
Tout à l'heure, vous avez cité le nom de Philippe Guillot. Alors ça, c'est un grand collectionneur qui apparemment a été lié à la vie de la famille par sa passion pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Philippe Guyot est une personne, je vous dis, qui est venue pour la première fois à l'âge de 15 ans à Périgueux visiter l'entreprise en vélo.
Et en vélo, mais d'où?
De Longuillot. De Longuillot, en plusieurs étapes, il a fait ça. Il était passionné de vélo également, mais je crois qu'il est encore plus passionné de Starlux. Et il a sympathisé avec notre père. Ses parents avaient un magasin très, très rustique.
Et un magasin de quoi?
Jouets.
Ah, de jouets. Ah oui, alors, donc il avait le virus.
Oui, oui, oui. Et c'est sa mère qui a tenu le magasin très tard. Philippe a voulu, en hommage à nos parents, faire une exposition, entre autres, en vue de faire un musée, mais ça, on n'y est pas encore. On a fait une exposition au château des Isards, avec l'accord de Jean-Pierre Roussary.
Ça, il y a quelques années, ça, c'était
en 2010. Et L'exposition avait attiré en quelques jours 3000 personnes. Et Philippe Guillot avait amené pratiquement toute sa collection. Philippe est pharmacien.
Ah, il est pharmacien, mais il est pharmacien collectionneur.
Il est collectionneur pharmacien, je dirais.
Merci de la nuance. Alors, passionné. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes comme ça qui sont passionnées et qui, avec lesquelles vous avez des relations suivies
Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y a Claude Pilon qui est maintenant en Vendée, qui habitait pas très loin de chez Philippe, qui est un passionné, qui fait partie de l'association. Il y a Dominique Petit de Gujan-Mestras, pareil. C'est des passionnés comme c'est pas possible, ils ont plus de 5000 sujets, et d'autres que je connais même pas les noms.
Mais alors, il y a un domaine qu'on n'a pas du tout abordé, malheureusement, c'est le domaine c'est tout ce qui allait autour des sujets, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous êtes mis à fabriquer des bâtiments, des châteaux forts, des fermes, c'est-à-dire tout ce qui pouvait abriter les sujets et servir de support à des jeux d'enfants pendant des heures.
Ça a une histoire. Et je ne sais même pas si ma sœur est au courant. Un jour, au salon du jouet, une personne qui était là haute au jouet m'avait offert pour mon fils des bâtiments, 3 bâtiments. Il devait y avoir une ferme, un ranch et un château fort. Et mon fils étant trop petit à l'époque, j'avais mis ces 3 bâtiments dans mon bureau. Mon bureau était en face de celui de mon père. Mon père avait son bureau en face du mien. Et il regardait ça, et quelquefois il ne le regardait pas avec d'un bon œil. La concurrence, c'était pas son truc. Bon. Mais il ne critiquait pas. Et moi, j'avais dit un jour à mon père, pourquoi on ne ferait pas des bâtiments? Il y avait quelqu'un à La Noye qui montait des bâtiments très artisanaux pour des jouets, enfin des miniatures, et il est allé le voir. On s'est mis à faire des bâtiments.
Mais il avait mûri sa décision.
Voilà d'où vient l'histoire. Oui,
donc c'était quand même quelqu'un qui avait une personnalité.
Mais il n'aimait pas qu'on nous
commande. Donc là, vous êtes mis au bâtiment et par conséquent, ça a été la même procédure, c'est-à-dire série et peinture.
Ouais. C'était plus compliqué parce que les bâtiments, nous avions tendance à les faire beaucoup plus solides que la concurrence. Ce qui faisait notre succès, et le fait de faire plus solide nous obligeait à vendre un peu plus cher.
On n'avait pas intégré l'obsolescence programmée.
Donc ce site se situait à La Noye, mais c'est resté quelques années dans des locaux à La Noye que nous avions aménagés nous-mêmes.
Et ça, l'activité bâtiment, ça a fonctionné jusqu'à la fin de l'entreprise?
Absolument. Oui, ça a fonctionné jusqu'au bout.
Et c'était moins rentable, à mon avis. Ça a été moins rentable, parce que ils étaient trop beaux.
Qu'est-ce qui vous reste de cette grande aventure, d'avoir participé à cette grande aventure familiale? Est-ce que c'est un sentiment d'amertume, parce que c'est terminé, ou bien est-ce que... puisque manifestement vous en cultivez le souvenir avec affection, est-ce que c'est un sentiment positif?
Oh, c'est tout à fait un sentiment positif. Quoique, moi, quand j'ai abandonné en 97, je me suis sentie mal. Ça a été difficile.
Dur, oui.
Et après, je suis repartie quand l'association s'est montée. Je suis revenue, j'ai refait surface.
D'accord.
À ce niveau-là.
Grâce à l'association qui permet d'entretenir ce souvenir.
Pour revenir sur Starlux.
Et vous, Gérard?
Moi, j'y suis resté jusqu'en 77. Je n'étais pas un commerçant ni un industriel par rapport à notre père. Je n'aurais pas pu rester dans une entreprise enfermée, comme ça pourrait être le cas. Et il fallait que je bouge beaucoup.
J'ai besoin de voler.
Ouais. Et j'étais vraiment pas fait pour tenir. Et je n'étais surtout pas un gestionnaire, comme était notre père. Et même si j'ai eu quelques petits déboires avec mon père, moi j'ai dit chapeau papa. Et au nom de ma sœur et de moi-même.
Pour vous, c'est un exemple de réussite individuelle, comme ça de,
absolument.
Oui. Oui, ce que je voulais dire en parlant de notre père, c'était qu'il n'avait pas peur de mettre la blouse et de se mettre au travail avec ses ouvriers.
C'est ce que je disais, voilà, il est resté un artisan jusqu'au bout. Quoi,
humble jusqu'au bout, oui, tout à fait. Et il m'a appris beaucoup de choses dans le métier.
Maryse Gérard, on n'a pas parlé de votre participation au Salon de New York, alors je pense que vous avez dû assister aussi, vous avez dû voir la roue tourner aussi.
Complètement,
Mais d'abord, je voudrais vous remercier de votre témoignage, mais conclure aussi en vous posant la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez d'autres passions ? Alors, Gérard a en partie répondu en expliquant qu'il avait quitté l'entreprise parce qu'il était attiré par d'autres types d'activités. Mais est-ce que vous avez d'autres passions que le culte de votre héritage familial ?
Je suis passionné de sport, je suis passionné de timbres.
Vous êtes un collectionneur alors ?
Un peu.
Marie ?
Moi, je suis passionnée de lecture, j'achèterai des livres à longueur de temps. Et passionnée de cuisine, je me suis découvert, enfin, je l'étais déjà un petit peu avant, je me suis découvert cette passion-là, et à la retraite, je me suis acheté tout le matériel qu'il fallait pour satisfaire mes envies.
Il faut dire que vous vivez dans un pays, dans un endroit quand même où on peut quand même être passionné de cuisine. Gérard ?
Je me permettrai une chose que ma sœur a oubliée, c'est de rendre hommage à notre mère.
Oui.
Qui comptait beaucoup pour notre père et qui, en plus, notre mère nous a appris, sans nous montrer, elle nous a appris à faire la cuisine parce qu'elle était une très très bonne cuisinière. Elle nous a jamais montré, mais on a appris
par osmose, ça c'est formidable.
Oui, et ce que je voulais dire aussi à ce niveau-là, c'est que notre mère, elle recevait les clients, les très gros clients de la maison, ici, la maison.
C'est-à-dire qu'elle leur faisait goûter sa cuisine périgordine.
Et ils étaient ravis.
Parce que cet entretien s'est déroulé dans la maison familiale de Chamier. Et donc, ça ajoute à la valeur de ce témoignage, dont je remercie encore une fois beaucoup Maryse et Gérard.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.